RMC After Paris.
Thibaut Giangrande.
Salut mes Parisiens, comment ça va? Soyez les bienvenus dans l'After Paris. On est là comme toutes les semaines pour débattre de l'actu du Paris Saint-Germain. Toujours dispo partout, toutes les plateformes audio, comme d'habitude. Google Podcast, Apple, Spotify, Deezer, on est partout. N'oublie pas de t'abonner, de commenter si ça te plaît. Vidéo également maintenant depuis quelques semaines, l'After Foot TV et YouTube. Comme d'habitude, la chaîne de l'After, onglet playlist. Tu peux venir nous voir et commenter. Nos journalistes spécialistes du Paris Saint-Germain sont là. Fabrice Hawkins, qui suit le club au quotidien. Salut Fabrice.
Salut à tous. Salut Thibaut.
Et pour cet événement, on a ramené deux des plus gros ultras de la rédac d'RMC. Jimmy Brown de l'After et Pierre Dorian du Super Moscato Show. Salut
le cop Auteuil et le cop Boulogne.
Salut messieurs. Qui est Boulogne ? Moi, j'ai jamais mis les pieds à Boulogne. Bien
sûr. C'est fréquentable maintenant.
Oui. Quand même,
depuis plus de cop Boulogne. Ouais.
Plus de cop Boulogne aujourd'hui.
Non, bref. Bah non.
Quelle soirée, quelle journée, on est bien, jeudi 8 mai, voilà. On n'a jamais été aussi heureux, hein, jeudi 8 mai de toute nos vies je crois.
C'est la finale les gars, finale.
Tu sais quoi, on a déjà vécu une finale, on a vécu des grands trucs, des grands moments, mais à 49 ans, j'ai attendu d'avoir 49 ans pour connaître ce truc-là hier soir. C'était la première fois que je vivais une qualif de mon club après un match aller-retour, tout simplement.
T'as 49 ans, c'est ça le plus choquant dans la phrase.
Et comme je suis frais
encore. C'est beau, hein ? Non, c'est beau, franchement. Frais, je sais pas, mais bien conservé en tout cas. Oh. On enregistre jeudi, d'où peut-être un peu ces quelques sourires béats qui vont rester sur nos têtes pendant une demi-heure. Et au programme aujourd'hui, les hommes qui sont les artisans du parcours historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On attend d'ailleurs vos propositions, vos commentaires, hein, n'hésitez pas. C'est notre débat de la semaine qu'on va commencer en se remémorant les belles choses.
Qui va dégager loin devant dans la surface de réparation pour aller mettre un petit coup de pression supplémentaire. Partez et après ça sera terminé certainement. Il a manqué sa touche.
C'est fini.
C'est terminé. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions 2025. Ce sera la deuxième finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain dans son histoire. Le 7 mai 2025 restera une date historique. Et maintenant, le plus dur commence. Il faudra aller à Munich le 31 mai, aller chercher ce trophée face à l'Inter Milan.
La joie, le commentaire de Jeannot Séguier, l'émotion qu'on entend en fond de Jérôme Rotten. Justement, je voudrais qu'on commence par ça, qu'on commence par l'émotion. Pierrot, on a dit un mot, mais tu le diras tout à l'heure. Mais vous la placez où, cette victoire, cette qualif, ce mercredi soir, dans votre histoire avec le PSG?
Tout en haut. Honnêtement, tout en haut. Moi, ça fait 20 ans que je suis abonné au Parc des Princes. J'ai vécu des soirées exceptionnelles, mais comme hier soir, jamais. L'ambiance du parc, hier, entre le deuxième but parisien inscrit par Hakimi et la réduction de l'écart de Saka, j'avais jamais vu ça. Honnêtement, j'avais jamais vu ça. C'était de la folie. Toutes les latérales debout, il y avait des gens âgés derrière moi, tout le monde debout, tout le monde qui chante. Le fameux chant « Tous ensemble, on chantera », etc. Repris par tout le parc, 45 000 personnes, un boucan pas possible. Vous avez entendu même à la télé l'explosion sur le but de Fabian Ruiz. Franchement, c'était dingue. En termes émotionnels, c'était pas le plus grand spectacle qu'on ait eu à voir au parc. Le match en lui-même était... Voilà. C'était pas dingue, techniquement, etc. Même s'il y a eu beaucoup d'intensité, tout ça, paraît être en difficulté. Mais en termes émotionnels, non, moi, je mets ça tout en haut.
Fabrice, soirée, est-ce que tu rejoins Jimmy? Tu mets ça tout là-haut, après, sans forcément te mouiller ou quoi, mais sur le... Voilà, l'émotion qui se dégage de ce match-là.
Ouais, en tout cas, depuis que je suis le Paris Saint-Germain, sur la soirée peut-être la plus magique pour les supporters, pour les joueurs, pour tout le monde finalement, même si on n'est pas un fan viscéral de ce club. C'est vrai que c'était quand même une ambiance très, très, très particulière. Le match aller déjà était incroyable avec une grosse ambiance parce que les supporters d'Arsenal voulaient vraiment marquer le coup. Mais là, je pense que les Parisiens, ils ont vraiment montré que c'était un grand public de foot.
C'est marrant, Pierrot, tu parlais d'emblée, tu nous as dit, ouais, c'est tout là-haut et tout, parce que t'as un certain âge, t'as connu des grandes années.
Non, c'est la première fois, j'ai attendu toutes ces années pour connaître ça, c'est-à-dire que ce moment-là, je ne l'avais jamais vécu. Ouais, je ne dirais pas que c'est la plus grande émotion que j'ai vécue au PSG.
Okay,
moi,
c'est pas la même chose.
Non.
Ok.
Moi, j'étais déjà à Bruxelles dans le stade pour la victoire en Coupe des Coupes. Ça, c'est un souvenir indélébile. Ouais. Le PSG-Real, je le mets au-dessus. Et après, évidemment, de toute façon, on n'a pas classé plus ou moins. C'était incroyable hier soir.
C'est un peu ça.
Moi, j'étais pas au stade, donc c'est peut-être ce qui fait la différence avec Jimmy, déjà. Possible. Mais
Il manque un truc quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hier, c'était cool. On est en finale. C'est génial. Mais...
Il manque la Coupe.
Non,
exactement. Non, parce que ce n'est pas un aboutissement hier.
Il manque le scénario aussi. C'est-à-dire que. Sur cette finale aller-retour, jamais tu trembles. T'as pas l'émotion de tu crois que tu vas être éliminé, tu reviens. C'est-à-dire qu'on est super heureux, c'est génial. Mais il manque
Tu sais, la qualif contre le Bayern, pourtant à huis clos, je crois qu'elle m'a apporté plus d'émotion encore parce que
Chelsea
les deux matchs étaient fous. Chelsea 2015 moi, aussi. C'est comparable. Chelsea hier, pour moi, c'est comparable.
C'est deux choses différentes en fait. Sur des scénarios, effectivement, t'as pas eu ce scénario, t'as eu un renversement, etc. Mais tu voyais les gens en tribune. La Ligue des Champions, c'est un tel objectif pour ce club depuis que le QSI est arrivé. Tu sentais une telle attente. En fait, ça fait trop longtemps que les gens attendent, rêvent de ce moment-là. Il y a eu le Final 8 où tu vas en finale, mais bon, c'est le Covid, c'est à huis clos, il n'y a personne dans le stade, etc. Là, quand tu es vivre une demi-finale retour au parc, il y a eu une telle frustration après l'année dernière où tout le monde se disait, voilà, tu joues Dortmund, après avoir sorti le Barça, c'est fait, tu vas aller en finale. Là, de le vivre, c'était grandiose. Franchement, c'était grandiose.
Le fait de se qualifier pour la Ligue des Champions, enfin la finale de Ligue des Champions, même symboliquement, en fait, au coup de sifflet final, on sent quelque chose de très fort. Mais c'est vrai que si on veut juste revenir sur l'émotion, sur la physionomie du match aussi, les rebondissements, la victoire face à Liverpool, je pense qu'elle est peut-être un cran au-dessus, simplement sur cet aspect-là.
Tu la vis pas au parc, tu la vis pas chez toi.
Exactement. C'est pour ça que ce match-là est différent.
Moi, c'est la première fois que je vivais ça hier soir. Hier, 20 minutes après le coup de sifflet final, les joueurs étaient rentrés, ils avaient salué toutes les tribunes, ils étaient allés faire la fête devant Auteuil, les gens étaient rentrés, les gens partaient pas, on n'arrivait pas à partir parce que tu sentais que tu vivais un moment d'histoire, quoi. Même si effectivement il n'y a pas la coupe au goût encore. Ce sera encore autre chose.
Raconte-nous, Fabrice, côté joueur, club, staff, comment ils ont vécu cette soirée.
Ils étaient très heureux et on l'a vu sur la pelouse, ils se sont pris dans les bras, directeur sportif, président, joueur, entraîneur, ils étaient vraiment très très contents. Ça s'est poursuivi évidemment dans le vestiaire avec, on le disait après Aston Villa, la qualification, il y avait quand même un peu de retenue en se disant attention, voilà, il reste la demi finale, ça va être compliqué, ça va être un gros morceau. Là, ils étaient vraiment contents, ils ont tout lâché, on a vu les images, ça a chambré, il y avait le drapeau du Paris Saint-Germain, même s'il y avait toujours quelques cadres expérimentés qui étaient là pour rappeler aux plus jeunes qu'il faudra quand même gagner la finale et qu'en 2020 c'était compliqué, même d'ailleurs il n'y a plus beaucoup de joueurs de 2020, mais ils le savent, les joueurs, ce sera très compliqué. Et l'objectif vraiment de tout ce groupe, c'est pas seulement d'aller en finale, c'est vraiment de la gagner. Et malgré toute la joie qu'il y avait hier, il y a certains qui étaient là pour le...
Ça sera très dur la finale, mais le match d'hier était très dur à aborder. La finale, elle sera pas forcément plus facile à gagner, mais je pense que dans la tête, elle sera plus facile à aborder. Le premier quart d'heure cata qu'on a fait hier, c'est bien sûr dû à Arsenal, mais c'est dû au fait aussi que ce match-là, c'est un bâton merdeux. Parce que tu as gagné 1-0, c'est pas beaucoup. Et la Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu sais que l'équipe qui a perdu, elle va dominer le match retour. L'équipe qui a perdu le match aller. Et je pense que les joueurs n'ont peut-être pas osé se l'avouer. C'était certain, moi c'était mon ressenti, qu'Arsenal allait faire un gros match. Et quand tu démarres comme ça, dans ce bouillon, je pense que l'émotion, elle est due au fait aussi que ça a été très difficile et qu'il y a la satisfaction, la joie, plus le soulagement. Les deux se sont mêlés. Sur le but de Fabian Ruiz, sur le but d'Hakimi, il y a les deux en même temps. Tu exploses parce que tu vis un but en demi-finale, c'est déjà un truc de ouf. Et en plus, tu dis, on va vraiment le faire, vraiment, on va vraiment le faire. Et je pense que c'est pour ça que toi, au stade, tu as ressenti un truc plus fort.
Justement, on va revenir dans quelques instants sur les hommes, ce que je disais tout à l'heure, de cette campagne d'une manière générale. Mais déjà, si on reste sur le match, c'est qui l'homme du match sur cette demi-finale ?
Je pense que entre Donnarumma et Hakimi.
Je pense qu'il est au-dessus quand même, Donnarumma. Parce que Hakimi ne peut pas briller si Donnarumma ne te fait pas ce premier quart d'heure. Je pense qu'il te sort trois ballons où tu te dis, mais comment c'est possible ? À l'image de ce qu'il avait fait à Liverpool, il est vraiment en train de se révéler, en train de redevenir le Donnarumma que le Paris Saint-Germain a recruté, espéré et qui va sans doute être prolongé. C'est un gardien qui fait la différence et on le sait en Ligue des Champions, il y a besoin de quelqu'un qui te marque les buts devant. T'as besoin d'un milieu quand même assez costaud, mais t'as surtout besoin d'un gardien qui fait la différence. Celui de l'Inter l'a fait face au FC Barcelone.
Courtois l'a fait plein de fois
pendant très longtemps avec le Real Madrid, et là Gianluigi Donnarumma est ce gardien qui fait la différence en Ligue des Champions.
La parade, la vitesse à laquelle il s'allonge sur Odegaard alors que t'as une forêt de joueurs devant lui, franchement c'est exceptionnel.
Ça c'est un miracle. Ça, c'est un but. Enfin, ça vaut plus qu'un but, je pense.
Et toi, tu le mettais à touche-touche avec Hakimi là, sur le match d'hier, Pierrot ?
Hakimi, j'ai trouvé très bon hier parce que, alors, il a souffert défensivement au début, mais j'ai trouvé quand même qu'il était vaillant, malgré tout, parce qu'il n'a pas fait que perdre des duels. Il en a gagné aussi dans ce quart d'heure compliqué. Et puis, toujours au four et au moulin. C'est-à-dire qu'il a beau. Enfin, on a subi, mais là, lui, il n'a jamais perdu pied. C'est-à-dire qu'il a continué à attaquer.
C'est un vrai leader.
Ce fameux discours de Luis Enrique, on va pas sortir de notre plan de jeu, c'est bien de le dire, c'est difficile de le faire quand tu prends le bouillon. Et en fait, celui qui a réussi à le faire, je trouve, hier, en l'absence de Dembélé, c'est bien lui, parce qu'il n'a jamais eu peur de sortir. Malgré les vagues et les vagues qu'on prenait, il n'a jamais eu peur de sortir. Et comme il marque ce but qui est magnifique, le geste technique est magnifique, attention. Dans la construction, il n'y a pas grand-chose, mais il faut le mettre de là où il est. Donc quand même, je pense qu'il mérite son trophée d'homme du match aussi, lui.
Jimmy,
je rejoins sur les deux. Moi, j'ai beaucoup aimé, vu du stade, Pacho. parce que justement dans ce premier quart d'heure où tu prends le bouillon, etc., j'ai trouvé serein tout le match. Il était là, solide au duel, sur les relances, il n'avait pas peur d'aller solliciter à chaque fois Vitinha, João Neves pour repartir. Là aussi, on parlait du plan de jeu qui devait être respecté. Franchement, Pacho, moi j'ai trouvé très 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 costaud sur le match. Et tu peux en rajouter, João Neves au milieu de terrain, beaucoup de personnalité, encore une fois, il s'est jamais caché. Les duels aériens,
surtout
mec, il arrive
défendre...
à gagner des duels aériens, il fait un petit peu plus petit sur le terrain.
Ça, c'est,
et il monte à chaque fois, il va s'arracher pour prendre les ballons.
C'est pas une question de taille. Les duels, et on en parlait, les coups de pied arrêtés, l'engagement, le timing, la volonté, ah, ça fait la différence.
Franchement, João Neves, c'est une pioche incroyable. Les deux, hein, ces deux recrues, rien à dire. Moi, j'étais sceptique au début de saison sur Luis Campos. Franchement, il t'a ramené deux phénomènes.
Avec juste
Pacho, oui. João Neves, c'est très très fort.
Est-ce qu'on se prend 30 secondes pour le penalty de Vitinha hier soir?
Moi, j'aime pas.
Ouais,
moi, j'aime pas. Mais Neymar le faisait. J'avais l'impression qu'il maîtrisait un peu plus le geste. J'avais
moins
peur.
C'est la première fois qu'il se plante. Hein. Ouais. Il les a toujours réussi.
Neymar aussi a raté.
Il en a raté aussi. Hein. Mais déjà, moi, j'aime pas cette façon de tirer.
La fois d'avant de Vitinha.
Parce qu'en fait, pour
c'est
le gardien...
C'est limite contre Liverpool. Voilà. Heureusement qu'il choisit pas de côté, Alisson. Sinon,
Liverpool, c'est un miracle. Moi, pour moi, il doit plus les tirer. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a un gardien qui a montré comment il faut faire, c'est très dur à faire pour le gardien. Ne pas partir, c'est très dur à faire. Mais contre lui, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant que ça a été vu...
On met qui?
Bah, là, je sais pas. Moi, je mettrais Hakimi parce que. Non, mais Ousmane, il est capable d'une dinguerie.
Il peut mettre
une
Ouais, mais il a de très bonnes stats. Hein. Et il voulait les tirer. Je sais que ça a été un sujet en début de saison Il a pu y avoir de la déception de ne pas être désigné parce qu'à un moment donné, quand on te donne les clés et qu'on te dit, bon, ça va être le collectif, mais à un moment donné, toi aussi, il faut que tu élèves ton niveau de jeu, il faut que tu puisses marquer des buts et porter parfois l'équipe. Quand il le fait et qu'on ne lui donne pas les pénalties, c'est.
Qui tire le pénalty en finale? Je vous pose la question.
Est-ce que tu vas avoir un pénalty en finale?
Oui, bien sûr que
ce sera Vitinha. Ce sera Vitinha, il ne sera pas désavoué simplement parce qu'il a raté ce pénalty. Ce sera lui.
Ouais, il faut être sûr que ça lui est pas rentré dans le cerveau non plus, quoi. À lui aussi.
Après, encore une fois, sur la réaction du public hier, les gens étaient tellement persuadés dans les tribunes que l'arbitre, au moment où on va voir le VAR, il avait sifflé pénalty pour Arsenal,
sur
l'accrochage. Oui, juste avant, t'as avec Parra qui accroche Chaka. Et tu te dis, quand il monte la surface d'Arsenal pour dire que c'est pénalty pour le PSG, franchement, ça a été vécu comme un tel miracle.
D'ailleurs,
que c'était limite pas grave qu'il ait planté.
C'est un peu ridicule. Alors, il y a une main, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve ça un peu ridicule. C'est-à-dire que personne ne l'a vu. Ça n'a rien changé à la dynamique du match. Les Parisiens ne l'ont pas vu. Ils ne se sont pas sentis floués. C'est totalement fortuit comme main.
Oui, mais alors, non, mais là, je te
en fait, je me dis,
mais à l'inverse, ça veut dire qu'il faut que t'ailles réclamer pour ça.
Imagine si ça aurait pas été le cas, mais si une demi-finale bascule là-dessus, moi je trouve ça dommage en fait.
Bah oui, Paris, rappelle-toi,
on a connu des matchs
comme Manchester United, c'est un 8e quart de finale, c'était terrible.
Donnarumma sur Benzema.
Oui, mais c'est pas la même main pour le coup. On se souvient de la main de Kimpembe.
Mais Donnarumma sur Benzema, la VAR peut faire son taf. Là, ça me dérange pas parce que c'est une faute qui n'est pas vue par l'arbitre et qui a une conséquence incroyable.
C'est une erreur.
Mais hier, franchement, on dit que les mains involontaires, il y a débat. Bon, bah, ne la sifflons pas. Parce que tu vois, tu me dis, nous, on a connu l'inverse. Mais c'est pas parce qu'on a connu l'inverse qu'il faut tomber dans la revanche.
Oui, mais après, tu peux faire ce débat 100 fois. La règle, c'est la règle. La règle, elle est celle-là. Elle peut être stupide, parfois mal vécue.
On a
de toute façon, ça s'est pas joué là-dessus.
Parler d'Achraf Hakimi, je voudrais qu'on écoute. C'est toi qui étais le voir en zone mixte après, c'est ça?
Non.
Non?
non, il fait pas les zones mixtes, mais il est dans le vestiaire, il fait pas les zones mixtes.
Ah, c'est Valentin Jamin, voilà, il a tendu le micro et Achraf Hakimi a parlé de revanche, écoutons.
Très difficile, et on était dehors de la Champions League, il n'était pas beaucoup moins que la croix en cette équipe, et nous on a continué à travailler, on a fait ce qu'on a besoin de faire tous les matchs, et le travail ça paye, aujourd'hui ça a payé, et on est arrivé à un moment très important pour le club, que c'est en finale et on va aller là-bas pour ça, c'est cette coupe que je pense qu'on mérite aussi. Tout le monde il a célébré, il est content, on a célébré ensemble et on va continuer maintenant.
Achraf Hakimi au micro de Valentin Jamin, on envoyait la grosse équipe en RMC, il y avait Valentin, il y avait Fabio Jeannot,
Nicolas Pelletier.
Nicolas Jamin, il y avait tout le monde au parc, donc il parle de revanche et c'est vrai qu'on a du mal à se souvenir, là on est en finale, mais qu'il y a trois mois, on était mené 2-0 par City au bord de l'élimination. Qui sont les hommes, justement, qui ont permis ce retournement et au PSG d'être à Munich le 31 mai. Si vous aviez deux noms à me donner, qui fait basculer la saison et la campagne européenne du Paris Saint-Germain ?
Écoute, moi j'en ai trois. Si tu veux que je t'en donne que deux, je choisis. C'est Donnarumma, Dembélé.
Okay.
Donnarumma, il te qualifie à chaque tour. C'est implacable. Donnarumma te qualifie à chaque tour.
Je suis d'accord. Et Dembélé, sur les deux derniers.
Et Dembélé, deux choses. D'abord, son repositionnement dans l'axe a été un tournant. Et deuxièmement, on peut me parler du collectif, de ce qu'on veut. Le projet ne peut pas marcher sans un profil comme Dembélé. Tu l'as vu hier, hein ? Hier, Arsenal, moi j'en suis convaincu, ne peut pas jouer aussi haut si tu as Dembélé sur le terrain. Tu ne peux pas prendre cette prise de risque qui est suicidaire, qui a failli leur réussir, si tu as un mec qui sait jouer dos au but sous pression. Parce que c'était ça notre problème.
Parce qu'il y a cette capacité à prendre la profondeur.
Ils étaient
aussi
parfois 10 dans nos 25 mètres, 10 joueurs de champ. Mais c'est suicidaire de faire ça. Alors, sauf qu'ils le faisaient très bien. Mais si tu as un mec qui est juste capable de tenir le ballon et ensuite son défenseur ne sait pas s'il va se retourner vers la gauche ou vers la droite et faire sa passe vers l'avant, c'est fini. Ils prennent deux buts dans le premier quart d'heure.
On va continuer. Je voudrais juste qu'on entende Fabrice et après on va devoir libérer en direct comme ça dans l'After Paris pour aller, parce qu'on enregistre, il est quasiment 18h30 et tu seras chez Roten dans un instant. Ouais. Si tu as deux noms à nous donner.
Bah, les mêmes que, ouais, même que Pierrot, et je pense même que c'est assez indiscutable. C'est-à-dire que Donnarumma, si tu ne l'as pas, tu sors avant. Et Ousmane Dembélé, parce que c'est le meilleur joueur du club, tout simplement. Donc tu as besoin de ces profils-là, un très bon gardien, un joueur qui te fait la différence dans les moments clés. Il a été décisif, même hier, sur une jambe, il te fait une passe décisive. Contre Liverpool, c'est lui qui fait la différence. Même dans son état d'esprit, de l'avoir, un joueur comme ça, un peu comme Hakimi d'ailleurs, mais d'avoir des joueurs comme ça qui sont quand même des leaders, qui montrent la voie, qui font peur à l'adversaire, c'est obligatoire.
Tu dis sur une jambe juste avant que tu partes, il était diminué hier ?
Il était quand même... Après, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il avait fait les deux séances, donc dimanche,
collective.
Exactement, donc lundi et mardi avec le groupe, et que ça s'est plutôt bien passé. Après, j'ai regardé comme vous hier, et je ne pense pas qu'il était à 100%. Je ne l'ai pas vu accélérer une seule fois, par exemple. Mm-hmm. Donc, il faudra surveiller, et je pense qu'il sera ménagé dans les prochains jours.
On te libère. Merci Fabrice d'avoir été là.
Salut les gars.
Direction RMC pour toi. On continue avec Pierre Dorian, avec Jimmy Brown. T'es deux ou trois noms. Tu me donneras ton troisième aussi après, parce que...
Moi, évidemment que tu dois citer Donnarumma en premier, parce que sans lui, tu peux être à la porte. Et c'est là que ça change tout. Tu vois, dans les lectures des saisons qu'on fait, quand on te dit oui, ça se joue beaucoup au mental, cette équipe, elle a changé, etc. Si Donnarumma, c'est le même à Bernabeu, quand tu te fais éliminer par le Real de Benzema, peut-être qu'on raconte pas la même histoire sur l'équipe de l'époque, etc. C'est prépondérant d'avoir un très grand gardien. On l'a vu sur ces demi-finales. L'autre demi-finale, t'as Sommer face à Chesney. T'en as un qui a tout sorti, l'autre qui a tout encaissé. Au final, c'est l'Inter qui était peut-être moins bon que le Barça, va se retrouver en finale. Donc Donnarumma, il n'y a pas de débat. Dembélé, évidemment, c'est un joueur que j'adore. Mais pour changer, pour citer quelqu'un d'autre, ce que je trouve n'est pas assez cité, moi, par rapport à tout l'apport qu'il a, parce que, et encore que si, statistiquement, il pèse aussi, c'est Kvaratskhelia.
Je suis d'accord.
Parce qu'en fait, il a changé complètement le visage de l'équipe depuis qu'il est arrivé de Naples, spécifiquement en Ligue des Champions. Ouais. C'est-à-dire que tu sens que ce joueur-là, c'est un joueur en Ligue des Champions. Sur plusieurs aspects, il a cette personnalité, cette capacité à éliminer, à pas avoir peur, à aller chercher des frappes compliquées. Hier, il met un poteau encore, l'action elle est exceptionnelle. Peut être décisif aussi, il est sur le coup dans le but, sur le but d'Hakimi, c'est lui qui fait le décalage avant que Dembélé la donne à Hakimi.
Il rate juste sa passe pour Doué sur la contre-attaque.
Pour Barcola, il rate la passe pour Barcola.
Barcola, pardon.
Oui, il ne met pas très bien et du coup ça met un peu Barcola en difficulté, c'est vrai. Mais au-delà de cet apport-là, il y a aussi donc au match aller contre Arsenal, c'est lui qui donne la passe décisive à Dembélé. Il est aussi décisif contre Aston Villa. Et il y a l'apport aussi défensif.
L'activité qu'il a, c'est
l'activité hier, Nuno Mendes, il se noie. Et j'ai vu cette stat-là passer tout à l'heure. C'est le joueur offensif qui est impliqué sur le plus de duels défensifs, sur 25 duels défensifs. C'est-à-dire qu'il revient, il fait les efforts à chaque fois. Et c'est la grande différence avec l'année dernière, en fait. À ce poste-là où tu avais Mbappé, qui avait énormément de qualité, mais qui n'était pas reconnu pour son replacement défensif, lui, il se sacrifie pour l'équipe tout le temps, jusqu'à la 90e minute. Il vient faire les efforts, il revient, il a pris jaune à un moment donné. Enfin, il est mort de faim, le mec. Il est mort de faim et en plus, il est ultra talentueux. Donc, moi, j'adore ce joueur et je pense que Paris lui doit beaucoup sur cette campagne européenne.
Aussi. C'était qui ton troisième nom, Pierrot ?
C'était lui, évidemment, parce que si on refait la saison, l'équipe change de dimension au mois de janvier. Ça coïncide à ces deux événements, c'est-à-dire Dembélé dans l'axe et arrivée de Kvaratskhelia. Et en plus, bon, ça Jimmy le sait parce que moi ça fait 3 ans que je le saoule avec, j'adore ce mec, je voulais faire la saison monumentale qu'il a fait à Naples, moi je suis tombé amoureux parce que toutes les qualités que j'aime, c'est-à-dire que techniquement, pied gauche, pied droit, il est incroyable, c'est un chien galeux, il court vite et il a un truc qui est très spécial, c'est qu'il marque des buts dans une position où on marque peu habituellement. Il en marque plus que Barcola et il continuera d'en marquer plus que Barcola. Et ça, c'est très, très précieux. C'est-à-dire que son crochet dans la surface, il est fracassant. Il peut marquer du gauche et du droit. Donc, il avait tout ce qui nous manquait presque, en fait, pour que cette équipe... Parce que le problème de Luis Enrique, moi, quand je l'ai vu arriver, j'étais très sceptique parce qu'on sortait de la Coupe du Monde 2022 où l'équipe d'Espagne me faisait vomir. Ouais. C'est-à-dire c'était un jeu de possession sans jamais un instant de rupture. Et le problème de Luis Enrique, c'est que ce jeu-là, d'après moi, ça ne peut pas marcher si tu n'as pas des grands attaquants. Et là, avec
Ousmane Dembélé, ben oui.
Plus Gvisha, ouais. Il les a, ces grands attaquants. Voilà.
Et en plus, tu les appelles par le petit prénom. Ça veut dire que...
Et c'est pour ça qu'on peut quand même constater une évolution dans le jeu du PSG, ouais. Et se dire que ce n'est pas tout à fait le même visage qu'il y a eu. Parce que Luis Enrique, évidemment, c'est le jeu quand tu es en cours hier. Ouais.
Bravo Luis Enrique, mais.
De toute façon, bravo Luis Enrique. C'est monstrueux ce qu'il a mis en place, etc. Il ne s'agit pas de minimiser son impact. Mais quand lui, hier, dit sur Canal, moi, je savais qu'on était déjà la meilleure équipe d'Europe dès la première phase, c'était juste une question de réussite, etc. Ouais. Moi, j'ai le sentiment quand même que l'équipe a changé, le profil de l'équipe a changé, de par ce replacement d'Ousmane Dembélé, de par l'arrivée de Guevara. Quant à ces deux éléments-là, c'est quand même pas tout à fait le même visage.
Pierrot, ouais.
Non, je voudrais juste profiter de ce moment-là dans le débat. Pour faire un point quand même où il faut tout relativiser. On va redescendre 5 minutes sur tous les storytelling, toutes les histoires qu'on se raconte en permanence. Moi, que ça me saoule. Et ça me saoule, je jure que...
Pourquoi ?
Parce que le foot, ça se joue sur des trucs qui sont intangibles. Et donc, il est indispensable de reconnaître les mérites de Luis Enrique.
Tu vas pas me dire que le foot, c'est des détails quand même.
Écoute, non, mais c'est ce qu'on disait sur Donnarumma et Armin, il y a 5 minutes.
Il faut le féliciter. Pour son travail, il a réussi un truc assez, assez grandiose. En plus, il s'est, je pense, un peu remis en question. Il a réussi à leur donner confiance, à leur faire croire que c'était possible. Et pour ça, bravo. Tactiquement, ça marche. Son plan de jeu, il fonctionne et tout. Maintenant, quand on me raconte l'histoire du collectif et tout, si ça se trouve, la même équipe avec la même histoire, juste dans l'ancienne formule de la Ligue des Champions, ça sort en poule. Parce qu'au mois de décembre, tu jouais mal. Au mois de novembre, tu jouais mal. C'est la vérité. Donc, parfois, il faut de la chance. Et cette équipe, elle en a. Donc, on ne va pas tout raconter, que tout était prévisible et que Luis Enrique, c'est le meilleur du monde. Non, Luis Enrique est très bon. Il est tombé au bon endroit au bon moment. Il a aussi un peu de réussite. Et encore hier, on a de la chance. Je veux dire, si Saka, il te met le deuxième, tu ne sais pas comment ça finit. Donc, toutes les histoires, elle est forte mentalement. Moi, à Aston Villa, je n'ai pas vu une équipe forte mentalement. J'ai aussi vu une équipe qui a eu la chance que le dernier ballon ait rebondi sur la cuisse de Pacho, au lieu que, comme d'habitude, tu as le mauvais rebond et ça finit au fond. Relativisons, profitons de l'instant et espérons que ça passe en finale. C'est tout.
T'es d'accord avec ça, Jimmy ?
À 100%. Mais
avec
c'est pour ça
que Chil d'Orient.
Non, mais je prenais l'exemple de Donnarumma. Si t'as ce Donnarumma là sur les phases finales précédentes, tu racontes peut-être pas les mêmes histoires.
Justement. Juste si t'as un arbitre honnête qui annule le but de Benzema, peut-être que l'histoire elle est incroyable derrière. Vrai, tu n'en sais rien. Il faut arrêter de raconter des trucs à l'avance. Profitons des matchs, profitons de l'instant.
Et dans cette histoire qui nous emmène à Munich le 31 mai face à l'Inter. Est-ce que vous êtes confiant ? Parce qu'il y a un truc aussi, vous m'avez parlé tous les trois, Donnarumma, Dembélé, c'est assez incontestable. Donnarumma, je sais pas, moi j'aurais du mal à avoir une confiance aveugle jusque tant que la coupe sera pas là.
Écoute, en tout
j'aurais
cas...
toujours peur de la boulette. Et il y a aussi le truc, c'est que de Dembélé, depuis maintenant un mois et demi, là il est un peu blessé, il avait baissé un peu de pied dernièrement. Si c'est les deux joueurs qui ont permis à Paris d'être là, et qui sont en 31 mai, qu'est-ce qu'on
c'est
fait ?
C'est pas que ces deux joueurs-là. Moi, le milieu de terrain du PSG, regarde dans les yeux le milieu de terrain de l'Inter tous les jours. João Neves, on en parlait tout à l'heure, il est extraordinaire. Vitinha, il a été un peu moins bon hier, mais c'est quand même un bon joueur. Fabien Ruiz, il te fait une phase finale de Ligue des Champions incroyable. T'as du talent à tous les postes dans cette équipe. Nuno Mendes, Hakimi, même si Nuno hier est moins bon. J'ai parlé de Pacho. Non, franchement, tu les regardes dans les yeux, l'Inter.
Le seul truc, c'est que tu joues à 14, donc il ne faut pas qu'il y ait de blessés, ça c'est sûr. Tu as des équipes qui sont
mieux
armées.
Oui, mais là, toi, tu vas gérer. Il te reste Montpellier, Auxerre, au Parc, la finale de Coupe de France.
Tu joues à 12.
En gros, alors, tu joues à 12, mais tu as quand même... il utilise un peu Warren, il peut utiliser un peu Gonzalo Ramos, voire Lucas Hernandez, qui a quand même été précieux hier. Bon. Donc, tu as quand même ça. Hein. Tu vois, le nombre d'absents qu'a Arsenal, ils alignent quand même une belle équipe.
Oui.
Ils ont un peu plus de matos.
Oui, mais a priori, ça a été bien géré jusqu'à présent. Après, tu n'étais jamais à l'abri, évidemment, d'un coup de guigne et de perdre un mec sur blessure à l'entraînement, etc.
À ta question,
tu vas gérer.
Je suis très confiant, pas qu'on va gagner à coup sûr, c'est pas ça, mais sur ton interrogation, oui. Je veux dire, Donnarumma, bah là, il a un niveau de confiance qui fait que je ne vois pas se déchirer. Et puis, s'il a un ballon aérien qui gère mal, on lui en voudra pas. Ça y est, c'est fini. Donnarumma, c'est fini. Il fait partie de la communauté, là. Ça y est, c'est bon. Tout est oublié.
Je le répéterai podcast après podcast.
Tout est oublié.
Merci Wilfried Tsingo, le Donnarumma balafré, c'est pas le même.
Il l'a confirmé, hein ?
Donnarumma bat la frappe, c'est fini maintenant, il a plus peur, il va.
Il était plus agressif depuis.
Bah oui, mais oui, mais c'est ça, il nous a sauvé la saison.
Cette équipe, c'est pas la meilleure du monde, elle est forte. Moi, je pense pas que ce soit une équipe très forte. Je pense pas que tu es devant toi une dynastie à la City là sur 3-4 ans où tu es injouable. Je pense pas que ce soit ça. On va continuer de progresser, à être très.
C'est une
chiant,
équipe jeune, hein. Très première équipe de moins de 25 ans de moyenne d'âge à arriver en finale.
Mais si tu veux, tour après tour, j'ai pas vu une équipe qui a dévoré ses adversaires. Elle l'a fait par séquence. Elle a aussi subi par séquence, mais c'est très bien, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas un reproche que je fais. En revanche, face à l'Inter, je pense que la finale sera plus facile à aborder que le match d'hier. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, c'était pas
tu
facile.
Tu joueras ton jeu.
Bah après, moi, j'aurais préféré jouer à Barça.
L'Inter, c'est une équipe aussi qui a fait des matchs dégueulasses parfois dans la saison. Il n'y a pas de complexe à faire.
Quand même, qui va peut-être et probablement ne perdre son titre en Italie.
J'aurais préféré jouer le Barça en finale parce que c'est une équipe à qui tu sais que tu vas marquer des buts. Là, c'est une équipe costaud qui a de l'expérience, qui était en finale il y a 2 ans. Voilà, ça va être très dur. Comme tous les matchs jusqu'à présent, ce sera très dur. Mais en tout cas, voilà, t'y vas et c'est déjà énorme.
On aura l'occasion de monter en puissance, nous aussi, dans l'After Paris d'ici au 31 mai, 3 semaines avant cette finale de Ligue des Champions. Merci les gars. Jimmy, Pierrot, bonne soirée.
Merci à toi.
Trouvez le sommeil un peu mieux que la nuit dernière, peut-être.
Moi, je ne vais pas dormir. C'est trop d'adrénaline.
Si tu dors pas après ce genre de match, c'est pas très grave.
Et merci.
Déjà, c'est rediff en intégralité direct.
À direct.
À direct.
Bien sûr.
Bien sûr, on s'est parlé à 2h du mat. On est en train de voir le match.
C'est fort. C'est fort.
Il n'y a pas plus grand plaisir que ça.
Merci les gars d'avoir été là. Merci à vous d'être là, fidèles à l'After Paris qui revient la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
RMC After Paris.